Ah, madame, vous parlez d'Allemagne, qui est directeur du département d'études germaniques à Tours, et monsieur Kurt Niedermayer, qui est le directeur du CIDIM.
Centre de documentation
Israël-Moyen-Orient.
Bon, alors on se partage. Bon, je crois que, à vous regarder, je retrouve beaucoup de têtes d'hier soir. Et c'est par rapport à la réflexion commencée hier soir. Les Juifs devant la Shoah, que nous continuons aujourd'hui. Mais alors, dans un domaine très particulier, en ce qui concerne les Juifs allemands. Et là, nous voudrions faire une rectification dans le titre. Il ne s'agit pas des Juifs allemands devant l'Holocauste, parce que quand l'Holocauste s'est abattu, la question a été tranchée, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout à partir de 1941, au lendemain de la décision, la conférence de Wannsee, où fut prise la décision de la solution finale, de l'extermination de tous les Juifs et de rendre l'Allemagne Judenrein, c'est-à-dire de purger l'Allemagne de tous les Juifs. Il y a une énorme littérature sur cette question et ne voudrions pas nous répéter ce soir. Ce qui nous semble plus intéressant, et dans ce domaine les renseignements sont plus rares, il y a peu de livres en ce qui concerne l'attitude du judaïsme allemand de 1933 à 1939, c'est-à-dire le judaïsme allemand, je dirais dans son sens littéral, devant l'Holocauste, c'est-à-dire devant la maison, devant la chambre mortuaire, devant la catastrophe immédiate qui s'annonçait, avant, on dirait plus exact, avant. J'éditerai d'ailleurs à ce livre, à ce titre, un livre important qui ne figure pas dans la bibliographie qu'on vous a remise et dont Madame Thalmann est l'auteur, qui traite précisément un aspect très significatif de cette période, qui est la nuit de cristal, en novembre 1938, et qui annonçait alors d'une manière très directe quel allait être le futur sort des Juifs. Ce qui semble faire problème, je commencerai par une statistique, c'est que d'après le dernier recensement des Juifs d'Allemagne est de 1925 et on a dénoté 564 379 Juifs, c'est-à-dire plus d'un demi-million. Sur ce demi-million, en 1945, à la fin de la guerre, il ne subsistait en Allemagne plus que 19 000 Juifs. Là-dessus, certes, 360 000, un peu moins, ont pu émigrer. Mais 180 000 furent assassinés. Et ce qui est horriblement préoccupant, c'est l'acceptation de ce carnage. C'est-à-dire la question qui se peut savoir, pourquoi n'ont-ils pas émigré? Et faute d'avoir pu émigrer, la question a été posée brutalement par Hannah Arendt dans La banalité du mal, pourquoi n'ont-ils pas au moins opposé une résistance symbolique qui aurait alerté le monde et qui aurait, soit, dans le meilleur des cas, pu être la sonnette d'alarme, ou tout au moins aurait sauvé, dit-elle, l'honneur du judaïsme allemand et de ses institutions. Et j'essaierai de répondre brièvement à ce problème sans pouvoir y donner une solution totale, en abusant peut-être un peu du privilège ou de la charge d'être moi-même juif allemand et d'avoir vécu dans mon enfance, personnellement dans ma famille, des comportements qui me semblent significatifs de ces juifs. Et alors, tout d'abord, ce qui me semble absolument déterminant, et je serais d'accord, comme je l'ai dit hier avec Manès Sperber, c'est que l'irruption hitlérienne n'a pas été compris par les juifs. Il y a eu, certes, une notion que c'était quelque chose de terrible, mais ça passera comme dans d'autres choses. Et il y a eu des confusions. Soit on a situé ce qu'il faut appeler, et je reviendrai là-dessus, la révolution national-socialiste, la révolution raciste, comme un simple suite de ces mouvements antisémites qu'a toujours connu l'Allemagne, du Moyen-Âge jusqu'au Second Empire de Guillaume II. Car il faut savoir que sous Guillaume II même, il y avait encore des dispositions discriminatoires qui écartaient les Juifs des fonctions publiques. La véritable émancipation des Juifs d'Allemagne n'a commencé qu'avec la Deuxième République, c'est-à-dire en 1918 avec la révolution de novembre 18 consécutive à la défaite allemande, dans le cadre de laquelle, d'ailleurs, un certain nombre de Juifs ont joué un rôle important. Où on a assimilé encore l'hitlérisme à un nationalisme deutsch-national, bien allemand, bien de chez nous. On a dit bien, il y a à la tête de ce mouvement le caporal bohémien, un homme mal élevé, mais l'armée allemande, die Reichswehr, qui était composée de gens de bonne éducation, portant monocle, qui acceptaient même de recevoir chez eux des docteurs juifs, qui fréquentaient quelques Geheimrats, quelques conseillers, quelques hommes des juifs du conseil Geheimrat, ils ont toujours la soif, le culte des titres. Que ça finirait par s'arranger. Combien de fois n'ai-je pas entendu que Hindenburg, le vieux président, finirait par avoir la peau du caporal bohémien. C'est un mauvais moment à passer. Ou encore, on se dit simplement, bon, c'est un mouvement anticommuniste. Et que de fois j'ai entendu dire, même autour de moi, au moins depuis Hitler est là, il y a de l'ordre. Il n'y a plus de grève. Les affaires marchent. C'est encore, bon, il y a des inconvénients, mais tout ça finira par s'arranger. Ce qui n'a pas été compris, et je dirais ça n'a même pas été compris dans les milieux révolutionnaires, dans les milieux marxistes, communistes, c'est que le national-socialisme n'était pas le social-fascisme, comme disait Dimitrov, simplement la dictature du grand capital. Encore que le grand capital a joué un rôle considérable dans l'avènement d'Hitler. C'est incontestable. Mais la révolution socialiste était un bouleversement monstrueux, était une tentative, pourrait-on dire, de nature gnostique, de vouloir changer la destinée du genre humain. Était basé sur quelque chose qui n'est pas, comme on l'a dit trop souvent, une simple de la propagande, on disait Hitler et n'est pas les juifs, parce que ça lui permet d'utiliser les jalousies, les complexes du peuple allemand, ça permet d'unir ouvriers, patrons. C'est vrai tout ça. Mais c'était plus que de la propagande, ça reposait sur une stratégie, sur une conviction profonde, comme je l'ai dit hier, d'une lutte de la race supérieure, la race aryenne, du peuple élu, nazi, allemand, la race supérieure, qui devait, pour assurer son triomphe, exterminer le sang impur qui pervertissait le peuple allemand, qui créait des Rassenschande. Il y avait d'ailleurs une loi contre la Rassenschande, la contamination du sang, la honte dans la présence juive qui risque de contaminer la race des maîtres. C'est d'ailleurs pour cette raison que les unions sexuelles entre juifs et non-juifs, comme d'ailleurs dans une certaine mesure aujourd'hui en Afrique du Sud, étaient punies de peine de mort. Et le journal important, le Stürmer, passait son temps à stigmatiser, à dénoncer la perversion du sang allemand de par le comportement pervers, diabolique des juifs qu'il fallait purger la terre pour que règne la race supérieure. Et c'est, comme je disais hier, c'était là une conduite qui dépourvue de toute rationalité positiviste, qui, dans une certaine mesure, allait à l'encontre des intérêts matériels de la victoire allemande. J'ai cité hier cet exemple qui me paraît tout à fait signifiant. Qu'en 1944, au moment de la défaite allemande, où chaque train de munitions, chaque renfort comptait pour éviter d'éviter la percée du front de Normandie, le train de déportés juifs avait priorité sur le convoi de troupes. Il fallait à tout prix assurer l'extermination des juifs. C'était la priorité des priorités, c'était la condition de la victoire. Donc, un comportement tout à fait aberrant, mais qui s'explique dans une conception globale du destin du nazisme. Et voilà qui, je dirais qu'aucune école idéologique, aucune école de pensée n'a voulu concevoir. Et à plus forte raison, les principales victimes, les Juifs eux-mêmes. Les Juifs eux-mêmes qui n'acceptaient pas d'être les ennemis privilégiés d'Hitler. Car, et c'est là que nous sommes en présence du phénomène de l'assimilation, d'autant plus que la communauté juive allemande, dans son immense majorité, se voulait profondément assimiler. Et assimiler dans l'admiration, non seulement de la culture allemande, mais des idiots de la nation allemande. Certes, il faut considérer que cette communauté juive, comme toute communauté, était socialement, idéologiquement, profondément divisée. Je pourrais d'abord, si je vous permettrais cette distinction dans la perspective de notre exposé, de distinguer entre l'assimilation totale et la demi-assimilation. J'appelle l'assimilation totale ceux des juifs allemands, de plus en plus nombreux, qui avaient rompu tout le pont avec le judaïsme, qui ne se voulaient plus juifs. Et là, dans ce milieu même, on peut distinguer deux catégories. Une minorité dont on a énormément parlé, mais qui n'était qu'une minorité, les révolutionnaires. Les révolutionnaires spartakistes, communistes, dans l'obédience de Liebknecht, de Rosa Luxemburg, de Kurt Eisner, de ceux qui ont animé des Soldatenräte, les Soviets de Berlin qui ont participé à la révolution de Spartacus. Et il est vrai, dans ce sens, encore que très minoritaire par rapport au judaïsme, pour eux se vérifie la parole de Lénine qu'aucun groupe humain n'a fourni tant de révolutionnaires que les juifs. Car finalement, c'était ces tentatives pour échapper à l'oppression, à l'antisémitisme et aux énormes contradictions qui existaient en Allemagne et dont les Juifs, de par leur vie, leur culture, étaient peut-être le plus sensibles, il y avait la tentation de mettre fin à ces contradictions en bouleversant toute la condition humaine par la solution de la classe ouvrière qui, en faisant sa révolution, met fin à l'exploitation de l'homme et instaure la fraternité humaine. Mais à côté de ce groupe, il y avait aussi un groupe inverse, qui était d'ailleurs le plus nombreux des Juifs qui avaient fait fortune, qui était entré en plein dans la société civile allemande, et la communauté juive allemande était dans l'ensemble très prospère, beaucoup plus prospère que la communauté juive française actuelle. Il y avait très peu de manuels, et qui étaient des banquiers, des grands commerçants, et qui d'ailleurs développaient à plein le mariage mixte. D'après une statistique de 1925, 44,8% des familles où il y avait des juifs étaient issus de mariages mixtes. Et c'est par exemple attesté par des choses assez significatives. J'ai parlé hier de Balin, qui était le directeur général de la plus grosse compagnie de navigation allemande, la Norddeutsche Lloyd, et qui était d'ailleurs un ami intime de l'empereur, et qui, en 1919, quand la flotte allemande devait être livrée à Scapa Flow, a cru faire un geste qu'il croyait sublime, digne de Wotan et de toute la Valhalla, de toute la... il s'est suicidé. Le jour même où la flotte... Voilà, c'était un vrai Siegfried, d'ailleurs, ce qui était très significatif. C'est fou ce qu'il y avait de jeunes juifs qui s'appelaient Siegfried. Mais il y a un autre aspect de choses. Il y a les juifs, ceux que j'appellerais des demi-assimilés, qui étaient encore dans une situation beaucoup plus inconfortable. C'est-à-dire qu'ils prétendaient maintenir leur appartenance à la religion mosaïque tout en se disant allemand, Deutsch. D'ailleurs, il est significatif, leur finalité même se reflète dans leurs institutions, dans leur dénomination. L'association juive la plus importante en Allemagne était le Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Ceci résume tout le comportement, ça veut dire association de citoyens d'État allemand de confession juive. D'ailleurs, même parfois on ne disait pas juif, on disait, faisait mieux, mosaïque. Et ce qui était encore plus remarquable dans cette institution centrale, qui se voulait même démocratique, puisque il suffisait de payer une certaine quote-part pour voter, les juifs étrangers, ceux qu'on appelait des Ostjuden, surtout, et qui faisaient horreur, les Polacs, on disait parfois, ceux qui disaient, ils font richesse, il suscite richesse, il crée l'antisémitisme. Ensemble, s'il y a Hitler, c'est la faute aux Juifs, c'est aux Juifs de l'Est qui sont mal élevés. Ils sont escrocs même, mais ils sont un peu voleurs. Ils crient, ils sont sales. Ah ben ceux-là, ils avaient le droit de participer pour toutes les questions de bienfaisance et parfois de culture, mais les questions centrales, ils étaient privés de droit de vote. Ils n'étaient pas allemands, c'était des étrangers. Et à côté d'eux, d'ailleurs, il y avait d'autres associations non bien significatives. Il y avait Der Verband National Deutscher Juden, c'est-à-dire l'association des juifs national-allemands. Et le mot national-allemand, c'est un mot qui a eu un grand destin, puisque le parti qui a servi de tremplin à l'arrivée d'Hitler au pouvoir était le parti Deutsch National. Et j'ai connu un certain nombre de juifs qui, pour éviter le pire, ont voté Deutsch National. Il y a eu des juifs dans les rues de Berlin, et même en 1935, quand l'armée allemande a réoccupé la Rhénanie. Il y a des jeunes juifs qui sont promenés dans les rues de Berlin en tenant dans la main, certes pas le drapeau gammé, ça quand même, mais le drapeau noir, blanc, rouge, le drapeau de l'Empire, qui était resté le drapeau de la Kriegsmarine, de la marine de guerre, la marine hitlérienne. Et j'ai juste imaginé, certains juifs s'imaginaient, maintenant qu'on a réoccupé la Rhénanie, la honte est lavée, et tout va aller mieux, et peut-être Hitler cessera d'être antisémite. Et il y avait une autre association, aussi au nom, c'est très significatif, que Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten, c'est-à-dire l'association impériale des combattants juifs du front, les Frontkämpfer. Et il y avait une sous-association, c'était l'association des juifs décorés de la croix de fer. Et ces associations jouaient un rôle d'obscurantiste extraordinaire qui empêchait les Israélites de penser. Parce que s'imaginons être membre de ces associations, par exemple des combattants du front, on ne va pas nous toucher. Nous, on est des vrais Allemands, c'est pour les autres. Alors, ces persécutions, c'est un mauvais moment à passer. Mais je dirais, ça allait encore davantage en profondeur. Là, je me permettrai de citer des souvenirs personnels de ce que j'entendais autour de moi, étant issu d'une famille de banquiers juifs allemands. Nous avons presque toujours vécu dans la même ville, Ratisbonne, Regensburg, qui d'ailleurs est une des plus anciennes communautés juives d'Allemagne. On trouve les premières traces de juifs en Allemagne en 980, en Ratisbonne, alors qu'on trouve les premières traces de juifs en Allemagne autour de Cologne, au 3e siècle. Et par un privilège assez extraordinaire, mon grand-père était capitaine dans l'armée barbaroise, qui était assez extraordinaire, parce que un juif ne pouvait pas être officier dans l'armée impériale. Il pouvait néanmoins, parce que c'était l'armée bavaroise. C'était un peu moins sérieux que l'armée prussienne. Mais même dans ce cas-là, c'était assez important. Il était en même temps président de la communauté juive locale. Il était donc vraiment à cheval entre deux feux, et il se voulait toujours très juif et très allemand. Très allemand, et ceci aboutissait à une surenchère extraordinaire. En tant qu'allemand, il était monarchiste, et la famille restait monarchiste même après le départ du bon empereur. Donc on dit, mais si le Kaiser n'était pas parti, on n'aurait pas eu Hitler. Et très féru d'ordre, d'héroïsme, de sacrifice. Il a failli se tuer en 1914 parce qu'on ne l'a pas pris pour le service actif au front. Et en même temps, une volonté délibérée d'être juif, de pratiquer les fêtes. D'aller à la synagogue, de respecter le Shabbat. Mais ce respect n'avait rien de joyeux. C'était quelque chose de très légaliste, de très rigoureux, de très solennel, de très dur. D'ailleurs, en tant qu'enfant, ce qui peut être paraître incongru à un juif de tradition polonaise ou séfarade, cette appréhension que nous avions à l'arrivée du Shabbat. Le Shabbat, c'était le jour des interdictions, de la haute surveillance. On ne riait pas ce jour. Car, finalement, on entendait toujours ça, être juif, c'est très dur. C'est presque un malheur. D'ailleurs, Heine avait dit, qu'est-ce que c'est d'être juif, c'est un malheur. Et dans la mesure où les non-juifs allemands n'aimaient pas les juifs, c'est-à-dire, malgré la position assez élevée de ma famille, on n'était pas reçu. C'était une ville de province, c'est vrai. À Berlin, ça se passait autrement. On n'était pas reçu dans les familles, dans la bourgeoisie chrétienne. Ils venaient en client, on se saluait, mais on n'était pas invité à table. Être juif, c'est rester très à part. On était plein d'admiration devant la nation allemande et on en était en même temps exclu. Ce qui amenait, pas comme par un phénomène de compensation, une double surévaluation. D'un côté, surévaluation par rapport aux students, et même dans une certaine mesure, surévaluation par rapport à soi-même. On souffre, donc on est vraiment des gens extraordinaires, mais en même temps, sous-évaluation et complexe d'infériorité. Puisque les Juifs sont tellement accusés, et que la nation allemande est tellement grande et merveilleuse, et que l'autorité allemande est juste, c'est qu'il y a donc quelque chose chez les Juifs qui va mal. C'est que les Juifs sont quand même un peu coupables. Certes, c'est des autres Juifs, les Ostjuden, mais leurs crimes même rejaillissent sur nous. Donc, une espèce d'énorme malaise intérieur, comme disait Sperber hier, un véritable état de pathologie. J'en arrive. Et la manière de compenser ce malaise, c'était soit dans un certain rigorisme, un énorme rigorisme fidéiste, mais qui était privé du targum, ou dans un super patriotisme allemand, et parfois les deux mêlés. On est qu'un tel État désarmé complètement devant le phénomène nazi. Il y a certes, alors, vous avez bien de dire, il y a le groupement sioniste, qui était très minoritaire, mais qui néanmoins était important. Vous savez que avant la guerre de 14, après la mort de Herzl, entre 1904 et 1916, l'exécutif sioniste siégeait même à Berlin. Et il y a eu ensuite un certain nombre d'associations sionistes. Il y avait des sionistische Vereinigung für Deutschland. Il y a eu même des mouvements de jeunesse sioniste qui ont joué un rôle très important dans le devenir du Haloutisme, de l'État d'Israël, qui était comme une espèce de pont entre le mouvement allemand des Wanderfüge, des auberges de la jeunesse, qui est une espèce de rupture avec les civilisations urbaines, un peu, on dirait, avant la lettre, avec la société de consommation. Et d'où sont sortis, sur le plan général allemand, un certain mouvement de gauche, et aussi le mouvement Hashomer Hatzair, qui s'est beaucoup inspiré de la mentalité, de l'idéologie, des Wanderfögel, ce qui veut d'ailleurs dire que dans ce devenir, dans cette culture allemande, Rita Thalmann le dira beaucoup mieux que moi, tout n'était pas déterminé, tout n'était pas pervers, tout n'était pas joué d'avance. L'Allemagne était à la croisée des chemins. Ce mouvement sioniste a permis une certaine immigration vers la Palestine. Il y a eu en tout 55 000 olim qui ont pu partir. Ils étaient d'ailleurs bien plus nombreux s'il n'y avait pas eu la politique du livre blanc. Après encore, j'avais vu dans les rues de Berlin des queues devant Palestina, Leute, où les Juifs essayaient désespérément d'avoir un certificat de certificat capitaliste qui permettait d'entrer librement, et il fallait prouver qu'on avait une certaine fortune, ou d'aller à Tétralout, mais c'était de plus en plus limité. Et là, on peut dire que la politique du livre blanc britannique a puissamment contribué au massacre. Et là, c'est vrai, c'est une banalité de le dire, mais il faut le dire, que l'absence d'un État juif, surtout pour les Juifs allemands, alors qu'ils auraient pu encore sortir, a puissamment contribué au massacre. Et que l'existence de cet État, l'existence du Yishuv, a permis de sauver un certain nombre de vies humaines. Mais il faut ajouter que, par ailleurs, que la plupart des Juifs ne sont pas partis en Palestine, soit qu'ils ne le pouvaient pas, soit qu'ils ne voulaient pas. La majorité, 63 000, sont partis aux États-Unis, 40 000 au Royaume-Uni, 30 000 en France, 25 000 en Argentine. D'ailleurs, ajoutons encore une chose, avant, à partir surtout de 1935, mais déjà avant, il devenait de plus en plus difficile de partir parce que les États récepteurs ne donnaient pas de visa d'entrée. Il y a eu la lamentable conférence des réfugiés déviants en 1938.